Vous êtes sur RTL. 30.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 8 juillet, le vaccin est 100% efficace contre le confinement. C'est la punchline du jour, signé Olivier Véran, le ministre de la Santé qui veut inciter les jeunes à se faire vacciner car le ciel de notre été s'assombrit à cause du variant Delta. Il est même conseillé aux Français d'éviter de passer leurs vacances en Espagne et au Portugal. La musique, en revanche, adoucit le Covid. L'étude réalisée lors d'un concert test du groupe Indochine montre qu'il n'y a pas de sur-risque de contamination. Ça, c'est une bonne nouvelle. Cédric Jubilard reste en prison. Décision de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse. L'homme est mis en examen pour homicide volontaire sur son épouse Delphine. Ses avocats qui ont plaidé le manque de preuves n'ont pas convaincu. Dans RTL Midi aussi, les fabricants de tabac vont devoir payer le ramassage des mégots. Annonce de Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique sur RTL. Ça va leur coûter 80 millions d'euros. Une icône du Real Madrid au PSG, Sergio Ramos a signé ce matin pour 2 saisons. À 35 ans, il s'offre un dernier défi. La météo, Peggy Broche, entre lumière et orage.
Oui, bonjour Christelle. Les orages pour l'Est, entre l'Alsace et les Alpes-Maritimes. Ailleurs, un ciel partagé, alors entre nuages et éclaircies. Un risque d'averse très faible, mais le ciel est bien dégagé sur le pourtour méditerranéen, avec un peu de vent. Et puis du beau soleil également sur la Corse, juste une petite averse possible sur le relief. Tout ça sous des températures en baisse à l'Est, du coup, et généralement fraîches pour la saison, comprises entre 18 et 24 degrés, et de 27 à 30 degrés près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr, le gouvernement doit-il prendre de nouvelles mesures face au variant Delta? Vous êtes 66% à nous dire oui, à 28% de non. On attend vos appels au 3210. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour, ça sera évidemment, comme tous les jours, j'ai envie de dire, au cœur de nos débats. Ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, éviter le Portugal et l'Espagne, ça c'est terrible parce que c'est une des destinations préférées des Français. Ouais. Beaucoup de gens ont sans doute pris leur location ou leur billet. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui vivait décidément des jours délicats, il a omis de déclarer 300 000 euros de revenus en 2019, mais il a régularisé. Et puis, nous pourrons parler de La Fontaine. Figurez-vous qu'à 400 ans, il naissait, donc Maître Corbeau sur un arbre perché, etc. Quelle est votre fable favorite? À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer, réveillez-vous. Dans cette période de grande migration estivale, une association d'assureurs, Attitude Prévention, publie aujourd'hui une enquête sur l'endormissement au volant. C'est un phénomène qui est responsable d'un tiers des accidents mortels sur autoroute. Et pour ne pas sombrer, Christophe Bourroux, le café est le seul remède efficace.
Ah oui, étude menée sur un groupe d'automobilistes qui avaient bu un expresso, un autre groupe un décaféiné et un autre des boissons énergisantes. Résultat, eh bien, seule la bonne vieille tasse de café est efficace, selon le docteur Frédéric Salman qui a participé à cette étude.
Parce que ça diminue ce qu'on appelle les micro-sommeils de 1 à 4 secondes qui sont vecteurs d'accidents, on va être bien réveillé au moins 2 heures.
Ok pour le café, en revanche, pour le décaféiné et toutes les boissons énergisantes à base de caféine, cela n'a pas ou peu d'effet.
Ça marche pas très bien parce qu'en fait, dans le café, tenez-vous bien, il y a plus de 1000 composants et c'est le mélange d'un millier de substances qu'il y a à côté de la caféine qui font que le tout ensemble, ben on est bien réveillé.
Mais attention à Christelle, si vous partez fatigué, vous aurez beau boire 10 litres de café, cela ne vous mettra pas à l'abri. J'en ai moi-même fait l'expérience,
oui,
souvenez-vous, il y a 3 ans, sur un trajet Paris-Biarritz de nuit, sans m'en rendre compte,
dormi.
Je m'étais assoupi 24 secondes, c'est-à-dire 1 km sans m'en rendre compte, les yeux fermés. Donc café, oui, mais surtout arrêtez-vous dès que vous sentez venir la fatigue.
Merci, ce sera utile en prévision des prochains week-ends. Merci Christophe. 85% des Français ont l'intention de profiter des joyaux de notre douce France. Mais pour ceux qui ont choisi de partir plus loin en Europe, le variant Delta commence à compliquer les choses. Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, demande ce matin à ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances d'éviter de se rendre en Espagne et au Portugal. Sébastien Rouxel, vous êtes à l'aéroport d'Orly pour RTL. Qu'en pensent ceux qui sont en partance ?
Eh bien, dans la foule compacte qui se presse devant les guichets, on pense plutôt à s'enregistrer à temps. Laurine, des lunettes de soleil déjà sur la tête, traîne une grosse valise grise direction Malaga.
Franchement, je me prends pas la tête. Sinon, dans ce cas-là, on part plus nulle part. Et puis, dans tous les cas, on n'a pas le choix. On a un mariage prévu là-bas, donc on peut pas annuler et on peut pas leur foutre un plan comme ça. Donc.
Et vous allez faire un peu plus attention, du coup, sur place.
Moi, je garderai toujours les gestes barrières et puis le masque. Je ferai toujours attention, mais je resterai comme en France.
Pas d'inquiétude par rapport au Covid, pas de crainte non plus pour son copain Michael d'éventuelles restrictions au retour.
Il y aura toujours moyen de rentrer sereinement. Et il n'y aura pas forcément non plus de contrôle derrière comme d'autres pays. Même s'il n'y a pas qu'une quarantaine, je pense que personne viendra ensuite vérifier si on est vraiment chez nous ou pas, quoi.
Guillemette, elle, le teint bronzé, revient tout juste de Barcelone. Et ce qui la rassure, c'est le nombre de fois où l'on a vérifié son test PCR ce matin.
Dès que vous rentrez dans l'aéroport, vous avez un premier contrôle à Barcelone. Et évidemment, une fois avant d'embarquer, ils vous recontrôlent une deuxième fois. Et donc, quand on arrive à Paris, on est encore contrôlé. C'est un peu fastidieux, mais au moins, on est rassuré et on rentre tranquille.
Et puis selon elle, les jeunes vont moins se rendre en Espagne vu la fermeture prochaine des boîtes de nuit en Catalogne. Son fils, par exemple, vient d'annuler ses vacances à Barcelone.
Sébastien Rouxel en direct de l'aéroport d'Orly. La vaccination obligatoire des soignants se profile. Jean Castex consulte cet après-midi les élus locaux. Mais un conseil de défense sanitaire exceptionnel sur ce thème est prévu lundi. Et ce qui inquiète les autorités, ce sont les jeunes, chez qui le variant Delta se propage très vite. Le nombre de cas a augmenté de 78% chez les 20-29 ans en une semaine. Et c'est sans doute aussi pour cela qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sont partis à leur rencontre ce matin à la Défense Arena à Paris, Vincent Serrano.
Oui, opération séduction. Près de 5 jeunes âgés de 17 à 25 ans, des bacheliers, des jeunes actifs qui continuent de télétravailler. L'argument phare du ministre de la Santé est tout trouvé. Il est même dégainé tout de suite.
Vous avez une année pourrie, non ? Les bars, les restos, les universités, le boulot, le télétravail, les transports, les vacances, tout ça, ça. Notre message, c'est de vous dire, c'est que si on ne se vaccine pas tous maintenant, on est reparti pour une vague, et à chaque vague, le virus, il gagne des chances de muter et de devenir de plus en plus dangereux et voire de plus en plus résistant. Il faut qu'on s'en débarrasse maintenant.
Les craintes des jeunes sont multiples. Celle de Samy, par exemple. A-t-on assez de recul sur ces vaccins ?
Qu'est-ce que vous craignez quand vous dites effets secondaires sur du long terme ?
Bah, s'il y a des problèmes de santé, d'autres problèmes qui peuvent survenir, de santé, je ne sais pas lesquels, mais il peut y en avoir.
Ça fait un an que le vaccin est développé. Et 8 mois après les premières vaccinations, il ne se passe rien de négatif chez les gens qui ont été vaccinés. On n'aura jamais plus de recul que ça.
Viennent ensuite les fake news qu'ils lisent sur Internet, les réseaux sociaux. Et puis à 25 ans, Marion ne voit toujours pas l'intérêt de se faire vacciner.
J'arrive pas à comprendre comment ça peut arrêter la maladie. J'ai l'impression que ça peut juste arrêter les formes graves. Et comme j'ai pas l'impression d'être un cas sujet à ces formes graves, je vois pas pour moi ce que ça va changer si je me fais vacciner en fait.
Il n'en fallait pas plus à Olivier Véran pour sortir de son chapeau l'argument choc. Vous vous vaccinez aussi contre le confinement. Manon est convaincu, vacciné par Olivier Véran lui-même, 2 jeunes sur 5. C'est pas plus mal, a déclaré le ministre de la Santé.
Un reportage Vincent Serrano. Et il y a aussi quand même des raisons de se réjouir. Au moment où vient de débuter la saison des festivals, on va pouvoir assister tranquillement à des concerts. Souvenez-vous, le 29 mai dernier, le groupe Indochine s'était produit à Bercy et une vaste étude avait été menée à cette occasion auprès de 7000 spectateurs. Eh bien, Virginie Garin, on vient d'avoir le résultat et il n'y a aucun risque.
Voilà, le public a été suivi à la trace par des chercheurs des hôpitaux de Paris et les conclusions sont claires. Il n'y a pas de risque supplémentaire d'attraper le virus lors d'un concert. Alors, les participants étaient 7000. Ils avaient entre 18 et 45 ans, pas de risque de santé. Ils ont tous été testés juste avant. Seuls les négatifs étaient retenus. Ensuite, ils ont été séparés en 2 groupes pour pouvoir comparer. La moitié est restée chez elle. L'autre a pu aller au concert avec masque obligatoire toute la soirée. La salle était ventilée. Le spectacle a dû duré 3 heures et les 7000 participants ont tous été à nouveau testés 7 jours plus tard. Et bien le nombre de positifs était le même dans les 2 groupes. 3 personnes ont contracté le Covid pendant cette semaine-là dans chaque groupe. Donc les résultats sont rassurants. Alors à noter quand même, Christelle, que le public était discipliné. Dans 91% des cas, le masque a été bien porté. Alors les concerts sont à nouveau autorisés grâce au pass sanitaire. Le masque n'est plus obligatoire mais fortement recommandé même à l'extérieur. Et bien les résultats de cette étude montrent qu'il vaudrait mieux effectivement que le public le garde bien sur le nez.
Voilà, on garde le masque et tout va bien. Dans les Vosges, un foyer de 9 cas positifs au variant Delta a été détecté du côté du Tillot et de Fraisse-sur-Moselle. Il s'agit de supporters de foot d'origine portugaise de retour de Hongrie où ils ont assisté à un match de leur équipe nationale. Souvent, Covid varie. On revient sur le variant Delta dans un instant. RTL
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
On aurait dû assister à un été en pente douce avec le Covid, mais la courbe s'est inversée. Le nombre de nouveaux cas par jour est repassé hier au-dessus des 4000. À l'hôpital, pour l'instant, c'est toujours la décrue. Il y a moins de 1000 malades en réanimation. Et le variant Delta menace. Alors, le gouvernement doit-il prendre de nouvelles mesures? C'est la question du jour sur RTL.fr, sur laquelle vous allez revenir avec les auditeurs au 32-10, Pascal Praud.
Qu'est-ce que vous voulez prendre comme mesure? Vous n'allez pas reconfiner? Vous n'allez pas imposer un couvre-feu? Vous n'allez pas fermer les restaurants? Vous n'allez pas enlever les masques à l'extérieur? Il y a consensus pour dire que ça ne sert à rien. Vous n'allez pas interdire aux gens de se déplacer? Vous n'allez pas faire de nouvelles attestations? La seule chose que vous pouvez prendre comme mesure, c'est cette affaire de vaccination. Vaccination pour les soignants, même si symboliquement, il faut le faire, mais ça ne changera pas grand-chose à l'épidémie. Ce n'est pas parce que vous allez vacciner des soignants que ça va changer quelque chose. Et la vaccination obligatoire pour tout ce qui pourrait être la vraie mesure, pour le coup. Alors ça pourrait être radical. Tout le monde vacciné. Tout le monde vacciné. En théorie, ça s'arrête. Celle-là...
Elle est risquée politiquement. Hein.
Voilà. Mais la seule qu'il y aurait à faire, d'ailleurs, ça serait intéressant de dire tous vaccinés.
Comme voilà. En Arabie Saoudite.
Vous l'avez dit. Voilà. Vous avez apporté la réponse. Mais je veux dire, pourquoi pas, d'ailleurs. Mais après... S'il y a des soucis, je me demande qui est responsable.
Allez, on va aller plus loin avec l'invité d'RTL Midi, Odile Launay, bonjour. Est-ce que vous m'entendez,
bonjour.
Madame Launay? Oui, bonjour, il y a un petit décalage, pardon. Hein. Vous êtes infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19. Est-ce que la vaccination peut nous permettre d'éviter une quatrième vague?
Alors, la vaccination est aujourd'hui le seul moyen qu'on ait pour éviter d'avoir à nouveau un nombre important de personnes hospitalisées. Donc, le vaccin n'empêchera pas complètement la circulation du virus, mais diminuera son intensité et surtout permettra de protéger les personnes qui sont les plus fragiles et qui risquent d'être hospitalisées. Donc, c'est aujourd'hui la seule arme qu'on ait à notre disposition pour éviter ou en tous les cas diminuer au maximum cette vague. Et à cette vaccination s'associe le maintien d'un certain nombre de mesures barrières. Je crois qu'aujourd'hui, il faut rester prudent. On voit ce qui se passe chez nos voisins. Et il faut absolument que les Français continuent à utiliser le masque, en particulier dans les endroits fermés où on se retrouve à plusieurs. Il faut, je crois, rester le plus prudent possible.
Mais quand on voit la vitesse de propagation du variant Delta, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ?
Non, c'est jamais trop tard. C'est évident que ce variant est plus contagieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va remplacer de façon très rapide le variant Alpha. Mais il n'est pas trop tard pour limiter sa propagation. Il n'est pas trop tard pour se vacciner. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment encourager toutes les personnes adultes qui n'ont pas été vaccinées à se vacciner, en particulier celles qui ont des facteurs de risque. Je parle des gens les plus âgés. On sait qu'il reste encore 15% de gens de plus de 65 ans qui n'ont pas été vaccinés. C'est absolument pas raisonnable quand on a cet âge-là de ne pas se vacciner. Mais également les personnes plus jeunes qui ont des facteurs de risque d'être hospitalisées. Et puis, de façon beaucoup plus large, si on veut limiter au maximum la circulation du virus, l'ensemble de la population pour laquelle aujourd'hui le vaccin est recommandé.
Mais est-ce que, comme pour les trois précédentes vagues, on risque encore aujourd'hui une saturation de l'hôpital, alors que plus de la moitié des Français sont vaccinés quand même ?
La moitié des Français sont vaccinés, mais l'autre moitié ne l'est pas. Donc ça, en fait, constitue une source potentielle de cas et potentiellement de cas sévères chez ceux qui ont des facteurs de risque qui, aujourd'hui, mettent à nouveau en danger la saturation de nos hôpitaux. En plus, dans une période où les soignants vont partir en vacances, parce que ça fait bientôt 18 mois qu'ils sont sur le front, et où il faut vraiment que les Français soient responsabilisés à la fois pour la vaccination, mais aussi pour le maintien de certaines mesures barrières.
On rappelle que le vaccin protège des formes graves de la maladie, mais n'empêche pas la transmission du virus. Est-ce que c'est pas aussi ça le problème ?
Alors, le vaccin protège des formes graves, ça c'est clair. Les données qu'on a aujourd'hui montrent que la protection vis-à-vis des formes graves liées au variant Delta est maintenue avec ces vaccins. Le vaccin protège aussi de la transmission. Il ne protège pas à 100%, mais il diminue probablement d'au moins la moitié le risque de transmettre le virus. Quand on est vacciné, on peut être infecté, on peut excréter du virus, mais à des quantités beaucoup plus faibles. Et il est bien montré maintenant sur les données qui sont disponibles que quand on est vacciné, on a deux fois moins de chances de transmettre le virus. Donc il faut absolument une vaccination qui se fasse maintenant. Toutes les doses sont disponibles. On peut se vacciner sans problème. Donc vraiment, c'est un appel à la vaccination de la population française pour permettre d'éviter la circulation trop intense de ce variant.
Et ça se joue dans les toutes prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci Odile Launay, membre du comité vaccin Covid-19, d'avoir été l'invité de ce journal. Cédric Jubilard reste en prison. Son épouse Delphine a mystérieusement disparu depuis 6 mois et demi. Il a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint. Et la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse, Patrick Tégéraud, n'a pas été convaincu par les 3 heures de plaidoirie de ses avocats il y a 2 jours.
Oui, la décision rendue tout à l'heure est claire. En substance, Delphine Jubilard a été tuée. Toutes les autres pistes ayant été épuisées, l'enquête a mis en évidence des indices graves et concordants qui permettent de penser que seul Cédric Jubilard peut être impliqué dans le meurtre de son épouse. Il doit donc être maintenu en détention pour protéger des indices, éviter qu'il puisse faire pression sur des témoins et trouble l'ordre public. L'un de ses avocats, maître Alexandre Martin, est surpris.
C'est assez curieux cette présentation parce que nous l'avons exposé. Il y a des pistes qui méritent d'être recherchées, approfondies, sans que l'on continue à se focaliser uniquement sur la piste de Cédric Jubilard.
Autre avocat de Cédric Jubilard, Jean-Baptiste Allary, souhaite passer à l'offensive.
Il est vrai qu'aujourd'hui, nous allons faire des demandes d'actes, nous allons rentrer dans cette phase de défense véritablement active pour justement permettre de faire avancer l'enquête qui, sur les 6 premiers mois, n'a pas permis de faire aucune avancée particulière.
Les avocats des frères et sœurs de Delphine Jubilard qualifient de logique cette décision. Cédric Jubilard reste donc incarcéré. Ses avocats vont demander qu'il soit entendu par le juge d'instruction au plus tôt.
Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. À Bagnols-sur-Cèze, l'ADN retrouvé sur des ossements sur une falaise escarpée est bien celui de Lucas Tronche, cet adolescent qui avait disparu en 2015. C'est une confirmation à laquelle on s'attendait. Il y avait juste à côté son blouson et sa montre. Les pollueurs seront les payeurs, vous connaissez le principe, mais désormais la France veut appliquer ce principe aux mégots de cigarettes qui jonchent les trottoirs ou les plages et qui polluent. Il existe déjà une amende de 135 € pour les fumeurs, mais Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, va faire payer aux fabricants de tabac le ramassage des mégots.
En France, on jette dans la nature 23 milliards de mégots tous les ans. On sait maintenant qu'un mégot pollue à peu près 500 litres d'eau. Et donc, on a fait le calcul comme ça, juste sur un coin de table pour voir. Et ça nous fait l'équivalent de 3 millions de piscines olympiques qui sont polluées à cause des mégots. La pollution, c'est quoi? C'est du plomb, c'est de l'arsenic, c'est du cyanure, c'est de l'uranium. Bref, des cochonneries. Et aujourd'hui, qui paye pour ramasser ça? Ce sont nos collectivités, ce sont nos impôts. Et donc, ce qu'on va mettre en place, là, tout simplement, c'est une filière pollueur-payeur. Ça veut dire que les fabricants vont devoir mettre en place un organisme qui va collecter de l'argent auprès d'eux pour le redistribuer, pour financer justement le ramassage, pour financer des distributions de cendriers ou des opérations de communication.
Barbara Pompili, qui était l'invitée de Benjamin Sportou ce matin sur RTL, et au total, ça coûtera donc aux cigarettiers 80 millions d'euros. 4 mercenaires tués, 2 autres arrêtés à Haïti au lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse dans sa résidence par un commando armé. Sa dépouille a été retrouvée criblée de 12 balles. Un choc dans ce pays le plus pauvre du continent américain. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence aujourd'hui. Cette fois, il a signé Sergio Ramos, l'emblématique défenseur du Real Madrid, est à Paris depuis hier pour paraffer son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le PSG frappe un grand coup dans le mercato en s'offrant une icône du foot espagnol, Quentin Vasselin.
C'est désormais officiel, Sergio Ramos vient de s'engager pour 2 saisons au Paris Saint-Germain, moyennant environ 12 millions d'euros de salaire annuel. Le club de la capitale a transmis les premiers mots du défenseur espagnol, forcément ravi de rejoindre le Paris Saint-Germain.
C'est un jour très spécial, je suis très heureux. Je remercie le Paris Saint-Germain. Je viens avec l'envie de gagner dans un club solide, attractif. Gagner, c'est ce que nous voulons tous.
Ça tombe bien, gagner, c'est sa spécialité au palmarès de Sergio Ramos. Une Coupe du Monde, 2 euros ou encore 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid. À 35 ans, il va maintenant offrir toute son expérience au Paris Saint-Germain pour l'aider à remporter enfin la Coupe aux grandes oreilles, la fameuse Ligue des Champions. Hier, le joueur a été accueilli en véritable rockstar par les supporters du PSG. C'était au siège du club avant de passer sa visite médicale. Sergio Ramos est déjà la quatrième recrue du club de la capitale après Giorgio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. Le PSG peut maintenant s'attaquer à un autre dossier chaud, celui de Paul Pogba qui fait rêver les vice-champions de France.
Les Jeux Olympiques à Tokyo seront décidément les plus atypiques de l'histoire. Le gouvernement japonais réinstaure l'état d'urgence sanitaire pendant toute la durée des Jeux qui s'ouvrent dans 2 semaines. Et il y aura peu, voire pas du tout, de spectateurs. La décision sera prise ce soir sur un éventuel huis clos. Dans un instant, nous serons au départ de la 12e étape du Tour de France à Saint-Paul-Trois-Châteaux, RTL chez vous. Christophe Paco.
RTL. Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
Et on vous retrouve Christophe, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Christelle. RTL chez vous, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, en direction de Nîmes, en passant par les sublimes gorges de l'Ardèche. Attention au vent aujourd'hui, vous l'avez entendu, avec un départ différé de 10 minutes. Rencontre au village départ, histoire du jour, question du jour, coup de cœur de Laurent Jalabert. RTL chez vous, c'est parti.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
RTL chez vous, avec Marion Rousse. Et le petit, il est où le petit Nino?
Ah, le petit Nino, il est resté là un petit peu à la maison. La journée, quand même, je le soulage, je laisse un peu tranquille récupérer. Puis il y a beaucoup de monde quand même au départ et aux arrivées. Donc il est là pour voir papa et dans la journée, il se repose.
Et papa l'a vu à Tignes alors finalement?
Ouais, le papa l'a vu à Tignes, il l'avait vu aussi à Saint-Amand. Je pense que c'était nécessaire pour lui, comme le petit, hein, finalement, de voir son papa. Et ça l'a remotivé pour les prochains jours. Et puis bon, la maman aussi était contente de voir le papa quand même.
Vous êtes partie en caravane pour suivre Julien?
Ouais, en camping-car. En fait, c'était la première année où je commentais pas le Tour de France. Donc quand j'ai su que j'allais pas le commenter, que j'allais avoir le petit Nino avec moi, j'ai dit bon, bah allez, je pars avec mon père et on va faire le Tour de la France. On va prendre la glacière, on va se poser dessus, on va regarder les coureurs passer. Et honnêtement, c'est un très bon moment de ma vie.
C'est fou parce que Nino est tout petit quand même pour l'amener comme
ouais,
ça.
Ouais, mais voilà, il prend le rythme de ses parents. C'est vrai qu'il a 3 semaines. Là, il a eu 3 semaines lundi et bah voilà, c'est un bébé adorable, il est content de monter dans le camping-car, il dort beaucoup hein, et, vu qu'il est tout petit, mais non c'est un enfant très calme et c'est vrai qu'on a de la chance de pouvoir l'emmener partout avec nous. Puis voilà, à cet âge-là, les bébés, du moment qu'ils sont avec leur maman ou leur papa, c'est le principal. Je pense que c'était inimaginable dans la tête de Julien de partir un mois sur les routes du Tour alors que le bébé avait 5 jours. Voilà, c'est pas toujours évident parce que ça fait beaucoup de fatigue aussi hein, pour la maman. C'est tellement des moments fabuleux et des choses qu'on revivra certainement jamais dans notre vie que même les moments les plus durs, je les savoure.
Ça va être un super souvenir. Famille magnifique en tout cas. Nino, Marion Rousse et Julien Lafilippe, merci et bonne journée sur la route du Tour.
Vous aussi, profitez bien.
Christophe Paco,
RTL chez vous.
RTL chez vous avec notre spécialiste vélo du Parisien aujourd'hui en France. Christophe Bérard, bonjour à vous.
Bonjour.
On a beaucoup parlé de la victoire du Belge Wout van Aert avant tout, mais encore hier, encore de la casse, pas moins de 7 abandons sous cette étape.
Exactement, ce tour est très dur, pas forcément à cause du parcours, mais ce changement météorologique. On était arrivé à Tignes, rappelez-vous, par 5 degrés. On avait quasiment 30 degrés sur cette étape hier. Clairement, les organismes sont très fatigués et les conséquences des conditions météo, elles se font sentir hier, peut-être encore aujourd'hui. Les coureurs sont clairement en souffrance. Moi, il y a quasiment 25 ans qu'on n'avait pas eu autant d'abandons à ce moment de la course sur le tour et ils vont encore souffrir. La chaleur va être compliquée à l'arrivée à Nîmes aujourd'hui. Les organismes sont très, très sollicités.
Et sans oublier le vent aujourd'hui qui va jouer un rôle important dans ce genre d'étape, hein, on est d'accord?
Oui, mais cette fois, le vent est annoncé de 3/4 face, donc il pourrait
pas rouler.
Pour le coup, ça pourrait les pousser, pour une fois que la météo est avec eux, qu'ils en profitent un petit peu.
Allez, ça roule vers Nîmes, on se dit à demain.
À demain.
Christophe Paco,
RTL chez vous.
RTL chez vous, le coup de cœur de Laurent Jalabert. Bonjour Laurent.
Bonjour Christophe.
Et ça va rouler très fort entre Saint-Paul, Trois-Châteaux et Nîmes, parce que ça va être très très beau pendant 160 km ou presque. Est-ce qu'on a le temps d'ailleurs, quand on est coureur, Laurent, de regarder un petit peu le paysage?
Mais non, c'est dommage, les coureurs, ils n'ont pas le temps de lever la tête et de regarder sur les côtés, les beautés de ces paysages que nous offre le parcours du Tour. La France est belle, mais on a la tête dans le guidon quand on est sur le vélo, on regarde le compteur, on regarde la signalétique et surtout on fait attention de ne pas tomber. Pourtant aujourd'hui, il va y avoir des beaux endroits. Hein. Le Vallon-Pont d'Arc, c'est magnifique. C'est vraiment des endroits où ça vaut le coup d'aller faire un petit tour de vélo, mais à vitesse réduite, bien sûr, pour
d'accord.
En profiter.
Quand je serai retraité avec vous, Laurent Jalabert, on pourra se balader un petit peu?
Oui, on pourra se balader avec plaisir, Christophe.
Ah, mais voilà une bonne nouvelle aujourd'hui. Avant le départ de cette 12e étape, Saint-Paul-les-Trois-Châteaux et Nîmes, départ 13h40. Et Laurent Jalabert, on se retrouve ce soir
pour le Club Jalabert.
18h30.
18h30, 19h.
Et c'est parfait. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
Question du jour, y a-t-il selon vous encore un peu de suspense pour la victoire finale. Mourad Djabari est allé à votre rencontre tout près de la ligne de départ.
Il y a toujours du suspense parce que tout peut arriver. C'est la glorieuse incertitude du sport, comme on dit.
Il n'y a pas de suspense, il n'y a même pas de, il y a pas de bataille. Il est au-dessus des autres, quoi. Il n'y a personne à son niveau pour l'instant.
Mais Paris, c'est encore loin.
À Paris est loin, mais bon, vu comme il grimpe, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour lui. Il n'y a pas de concurrence, quoi.
Vu l'étape d'hier, il y a encore peut-être un petit suspense quand même. Parce que Pogacar, il a lâché un petit coup dans le final. Donc c'est vrai que ça peut laisser du suspense pour la fin, alors qu'on croyait que c'était gagné, quoi. Mais comme on dit, comme disaient les commentateurs, tant que c'est pas à Paris, comme dit Jaja, c'est pas fini.
Vélo va, vélo vol.
Fenêtre sur tour.
La voix va, ou vélo va.
Avec Christian Laborde.
Fenêtre sur tour. L'histoire de la grande boucle avec Christian Laborde.
Le tour s'élance de Saint-Paul-Trois-Châteaux et file vers Nîmes, où soufflent les taureaux et règnent les sprinteurs. Dans la ville natale de Bernadette Lafont, de Manuel Amoros et d'Alphonse Daudet, les sprinteurs en effet s'en donnent à cœur joie. René Le Grévès en 36. André Darrigade en 58, Marc Cavendish en 2008. C'est toujours un sprinteur à Nîmes. Sauf en 2004, quand Aitor Gonzalez, pressé de Salé Doucher, sort du peloton à 80 bornes de l'arrivée. Ils sont plusieurs à sauter dans la roue d'Aitor. Laurent Jalabert, Santiago Botero, Pierrick Frédigo, Igor Gonzalez de Galdeano, Christophe Mangin. L'échappée prend corps. L'écart se creuse. Mais pour Aitor Gonzalez, vainqueur de la Vuelta en 2002, ça ne roule pas assez fort. À 7 bornes de l'arrivée, il sort Aitor. Il laisse ses camarades échapper et fonce vers Nîmes. Jalabert et Mangin unissent leurs efforts pour revenir sur Aitor, mais il est trop fort Aitor. À lui l'étape. Et Robbie McEwen, le sprinter de chez Sprinter, qui rêvait de s'imposer à Nîmes, devra se contenter du sprint du peloton. Aitor, c'est fort.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
La course, toutes les demi-heures, avec Christian Olivier et Mourad Djabari sur la moto de Jérôme Cavert. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL, avec une étape que l'on annonce des plus rythmées.
La météo, Peggy Broche, les températures sont un peu poussives.
C'est vrai, Christelle, toujours en dessous des normales de saison sur la majeure partie du pays. On est 2, 3, parfois 4 degrés en dessous. De 18 à Brest, 21 à Nantes, Lyon, Limoges, Strasbourg, 24 degrés à Paris et à Toulouse, 27 à Toulon, 29 à Montpellier. C'est toujours chaud près de la Méditerranée. Côté ciel, ça reste instable sur la façade est, avec un ciel chargé, des averses localement orageuses de l'Alsace aux Alpes-Maritimes. Ailleurs, le risque d'averse est plus faible sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Un peu plus de nuages, c'est vrai, au pied des Pyrénées. Et ça se dégage près des côtes de la Manche et de la façade atlantique. Puis il fait très beau près de la Méditerranée avec un peu de vent, tout comme en Corse, où une petite averse n'est pas à exclure sur le relief.
On les envie, ceux qui sont dans le sud-est. Merci Peggy. Il est 13h.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est un jour sans fin, j'ai l'impression de répéter... Chère Christelle, les mêmes phrases depuis quasiment un an. Nous sommes là avec Thierry qui habite la Charente et qui va nous parler de peut-être le variant Delta qui arrive. Bonjour Thierry.
Bonjour Pascal.
Votre sentiment?
Oui, mon sentiment, c'est que je pense qu'on va apprendre l'alphabet grec.
Oui, c'est pourquoi pas, effectivement, c'est une bonne remarque. Le rappel des titres avec Christelle.
Les orages et les inondations de la deuxième quinzaine de juin ont fait 500 millions d'euros de dégâts, c'est le chiffrage de la Fédération française de l'assurance. Il y a eu 235 000 sinistres dans notre pays. Cédric Jubilard reste en prison, décision de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse. L'homme est mis en examen pour homicide volontaire sur son épouse Delphine. Ses avocats qui ont plaidé le manque de preuves n'ont pas convaincu. La vaccination va-t-elle être obligatoire pour les soignants? Jean Castex consulte cet après-midi les élus locaux. En attendant, l'exécutif surveille la progression du variant Delta. Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, demande aux vacanciers d'éviter de se rendre cet été en Espagne et au Portugal. La pandémie a fait plus de 4 millions de morts dans le monde, d'après le dernier comptage de l'Organisation mondiale de la santé. Paris s'offre Sergio Ramos. Le défenseur emblématique du Real Madrid a signé au PSG ce matin un contrat de 2 ans à 35 ans. Il s'offre un dernier défi.
Merci Christelle.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.